Voilà, bonsoir à tous. Je vous propose une lecture dans l'Évangile de Marc au chapitre 10. Évangile de Marc au chapitre 10. Et on va se remémorer une histoire qu'on connaît bien, bien sûr. Mais il y a quand même deux, trois petites choses à dire sur cette histoire de cet aveugle qui va être guéri. Au verset 46, je commence la lecture. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabboni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Dans cette histoire, l'évangéliste nous parle de quelqu'un que Jésus va guérir. Et de tout son évangile, c'est le seul personnage dont on connaît le nom. Je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais tous les aveugles, paralytiques, ce que vous voulez que Jésus a délivré, a guéri, ce sont tous des anonymes. Et il n'y a que lui qui a un nom. Mais son nom est bizarre parce que non seulement il s'appelle Bartimée, mais en plus l'évangéliste, il prend le soin de dire « fils de Timée » derrière. Des fois qu'on ne comprenne pas. Bon, sauf qu'il faut se rappeler que Marc, il ne s'adresse pas à des gens qui comprennent l'araméen. Donc forcément, il donne l'explication. Comme si je parlais anglais, forcément, je vais dire quelque chose en anglais, je vais vous donner la traduction derrière. Et c'est ce qu'il voulait. Mais ce que Marc voulait, c'était surtout qu'on fasse un lien entre ce qui arrive à cet homme et son nom. Parce que sinon, il n'aurait pas insisté à ce point. Parce que mine de rien, son nom, Timée, apparaît deux fois. Bartimée, fils de Timée. Donc si on n'a pas compris qu'il fallait qu'on regarde à Timée, c'est qu'il y a quelque chose. Alors quand on regarde d'où ça vient, Timée, malheureusement, ça correspond peut-être à cette histoire, l'explication, elle est floue. Elle est floue. Pourquoi ? Parce qu'il y a le préfixe « bar » qui veut dire « fils d'eux ». Donc ça, c'est de l'araméen tout à fait classique. Mais à l'époque, surtout à Jéricho, eh bien, il se pouvait que dans ce nom-là, l'origine soit grecque ou alors l'origine soit araméenne. Parce que la prononciation Timée, c'était deux prénoms dans chaque langue. Et si on prend la racine grecque, ça veut dire, du coup, Bartimée, ça veut dire fils d'un honoré, de quelqu'un pour qui on doit des honneurs. Mais si on prend la racine araméenne, ça veut dire fils d'un impur. En fait, j'aime bien croiser les deux. Parce qu'il en est tout à fait l'image avant de rencontrer le Seigneur. Il est le fils de quelqu'un, entre guillemets, d'un honoré, d'un illustre, mais qui était aussi un impur, le diable. Et quand on ne connaît pas le Seigneur, quand on ne fait que naître et vivre notre vie sur cette terre, en s'occupant de nous, sans nous préoccuper de Dieu, eh bien, finalement, c'est ce que nous sommes. C'est tout simplement ce que nous sommes. Nous sommes des fils de la perdition, des fils qui auront pour destinée la condamnation éternelle si jamais on ne rencontre pas, si on ne s'applique pas dans notre cœur à chercher Dieu. Parce qu'il n'y a que celui qui cherche Dieu qui pourra le rencontrer. Et d'un autre côté, on pourrait se dire, oui, mais chercher Dieu, vous avez la Bible, vous avez ce qu'il faut pour le chercher. Imaginez celui qui est au fin fond. Et la parole de Dieu nous montre quelque chose de très simple. C'est que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se met sur sa route. Et ça, beaucoup de personnes pourraient en témoigner de ce que c'est arrivé dans leur vie. Le Seigneur se met sur la route de celui qui le cherche. Et ici, mais on en a peut-être l'exemple. Jésus devait aller à Jérusalem, certes, mais il est passé par la route où il était. Et Jésus va passer là où il arrive. Cet homme, on peut imaginer sa situation. Alors, comment il comprenait son propre nom? Je ne sais pas. Est-ce qu'il se sentait fils d'un honoré, fils d'un impur? En tous les cas, de par ce qu'il avait, il était reclus de la société. Il était aveugle. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, les aveugles, c'était assez courant. La terre d'Israël est une terre sèche. Là-bas, même la terre est claire. Il n'y avait pas de lunettes de soleil comme aujourd'hui. Et passé un certain âge, c'était très fréquent. Je l'ai lu sur des documentations de dictionnaires, etc. C'était très fréquent qu'à cette époque, en vieillissant, on en arrive à perdre la vue. Parce qu'on n'avait pas les protections qui permettaient justement de la conserver. Nos yeux dans cette région sont abîmés par les vents poussiéreux, par justement le fait que cette terre soit claire et soit... Ben, on a les yeux abîmés quand on a besoin de porter des lunettes de soleil quand il fait trop clair. Et ça protège nos yeux. Et quand on vieillit là-bas, surtout à l'Antiquité, aujourd'hui c'est plus le cas, mais on pouvait devenir aveugle assez rapidement. Et cet homme-là, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que c'est arrivé plus tard? Bref, il était dans une situation d'aveugle. Et malheureusement, un aveugle de ce temps-là ne pouvait plus faire grand-chose. Il ne pouvait pas, il n'avait pas accès à la sécurité sociale, il n'avait pas les aides, il n'avait pas, quoi qu'on n'ait pas encore au top, hein, question accueil des handicapés, mais n'importe comment, cet homme-là, il n'était pas accueilli, bien au contraire. Il était mis de côté. Et cet homme-là, il était comment? Assis au bord du chemin. Et au bord du chemin, ça nous parle quand même, parce que combien d'entre nous pourraient se dire, mais moi, je n'attendais plus rien de la vie. Dans ma vie, j'étais désespéré, j'étais triste. J'allais de déconvenu en déconvenu, de déception en déception. J'avais beau essayer de me débattre dans la vie, il n'y avait rien qui fonctionnait. J'étais en proie à des problèmes d'argent, j'étais en proie à des problèmes de cœur, j'étais en proie à des problèmes de travail, j'avais des problèmes avec mes voisins, j'avais des problèmes avec ma famille. Et on pourrait allonger la liste et on se retrouve sans armes, sans rien. Et on ne sait pas d'où le secours peut nous venir. Et ainsi, on peut des fois se retrouver dans une situation où on va s'asseoir, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on ne marche plus, on s'assoit. On arrête la route. Malheureusement, rester dans une telle situation ne nous permettra pas de vivre. Et cet homme-là, il en est l'exemple, il est au bord du chemin, et la seule chose qui lui reste à faire, c'est de mendier. Parce qu'il ne peut plus se déplacer tout seul. Il est aveugle, il ne peut plus marcher sans que quelqu'un l'aide. Et visiblement, ici, dans cette histoire, il n'a personne pour l'aider. La foule est bien hypocrite de la repousser et pour lui dire après, prends courage, il t'appelle. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Cet homme était seul. Il était complètement seul. Il était vraiment dans la société, il était complètement exclu. Et pourtant, il y en a un qui pense à lui. Il y en a un qui va se laisser approcher. Il y en a un qui va stopper le mouvement de la foule. Parce que Jésus est en marche, il est suivi par une assez grande foule, mais il va s'arrêter pour quelqu'un de petit. De tellement petit qu'il est assis, on pourrait ne pas le voir, il est au bord du chemin, et pourtant, le Seigneur va s'arrêter. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, et c'est aussi pour ça, je pense, que Marc a voulu qu'on sache comment il s'appelle, c'est qu'il va croiser un autre fils d'eux. C'est marrant de voir que justement, pour cet homme qui appelle Jésus de cette manière, eh bien, Marc a voulu lui donner son nom à lui aussi. Il a reconnu en Jésus quelqu'un de spécial. Et pourtant, ils ne croyaient pas si bien dire parce que Jésus, juste après, va être accueilli à Jérusalem en roi. Et lui, il avait vu juste avant tout le monde. Lui qui était aveugle, il voyait. Et d'autres qui voyaient bien, finalement étaient aveugles. Ils n'avaient pas su reconnaître Jésus. Et lui qui était aveugle, il était au bord du chemin, il avait su reconnaître celui qui passait. Il avait su déduire qui était en train de passer à côté de lui. Pourtant, quand il pose la question, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que c'est le fils de David? Non. On va lui dire, verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Autrement dit, Nazareth, c'était le rejeton, c'est ça que ça veut dire, Nazareth, la ville du rejeton. C'est pour ça, quand il est prophétisé par rapport à sa naissance, qu'il sera appelé de Nazareth, il accomplit une prophétie d'Ésaïe quand il est parlé qu'il serait le rejeton. Et finalement, alors que on présente Jésus comme le rejeton, comme le petit, il se dit, ben non, c'est pas ça. C'est Jésus, fils de David. Et lui, il arrive à voir clair dans cette affaire. Alors que Jésus est présenté d'une manière, il sait très bien que ce n'est pas celui qu'on décrit. Oui, il vient de Nazareth. Mais les hommes et les femmes avaient vu en Jésus quelqu'un d'humain. Mais lui avait reconnu le Messie. Il avait reconnu celui qui pouvait changer sa vie. Il avait reconnu en lui celui qui pouvait intervenir. Il avait reconnu en lui Dieu lui-même, fils de David. C'est le Messie qui est envoyé de Dieu. Et chez les Juifs, tout le monde le savait, que le Messie, c'est celui que Dieu envoyait. C'est une apparition de Dieu. Le Messie, c'est celui que Dieu envoie chez les Juifs. Et à l'époque, appelé ainsi fils de David, c'était lourd de sens. Et alors qu'il crie fils de David, eh bien, il va honorer le Seigneur. Alors, peut-être qu'il porte bien son nom, finalement. Lui qui est le fils d'un honoré, eh bien, il honore le roi. Il honore le roi en acclamant. Vous savez, quand un roi est sur la marche et est en route vers une ville, il y a toujours des sonneurs devant. Il y a les trompettes, il y a tout ce qu'il faut. Et il y avait aussi ceux qui annonçaient le roi. D'ailleurs, Jésus, quand il est venu sur la terre, tous les grands événements de sa vie ont été annoncés par des anges. Un roi, quand il vient, il est annoncé. Jésus, par qui est-il annoncé à Jérusalem? Par un aveugle. Ça fait sourire. Mais à l'époque, personne n'a réalisé. Celui qui annonce le roi, c'est un aveugle. Je ne sais pas si on réalise à quel point cette parole qu'on va lire dans Jean est... Et à propos, Jean chapitre 9, et c'est au verset 39. C'est Jésus qui parle. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Le roi, et c'est pas n'importe quel roi, par qui est-il annoncé à Jérusalem, par un aveugle. Il accomplit encore une fois la prophétie qui dit qu'il viendra sans faire de bruit. Oui, il est annoncé. Il est annoncé. Le roi est annoncé. Mais la bouche qui annonce le roi sonne faux pour les gens. Et pourtant, il est bel et bien annoncé. C'est Jésus, le fils de David, qui arrive. C'est le fils de David qui arrive. Et ici, on retrouve en Bartimée celui qui va annoncer le roi. Bartimée, ici, reconnaît dans sa vie la suprême autorité qu'est le Seigneur. Et quand Jésus va lui poser la question, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Comment Bartimée lui répond? Rabouni. Ça ne veut pas dire que maître. Parce que maître, c'est rabbi. Rabouni, c'est mon maître à moi, mon maître et mon Seigneur, celui que j'aime et que je veux suivre. Il y voyait clair déjà, le fait que ses yeux soient ouverts par le Seigneur. Ça révèle un état intérieur. Il voyait déjà à l'intérieur. Et Jésus n'a fait que montrer aux autres que cet homme, à l'intérieur, voyait déjà. Et en ouvrant ses yeux, ce n'est que mettre en conformité l'intérieur et l'extérieur. Et Dieu sait si c'est important d'avoir l'intérieur qui correspond à l'extérieur. Chez les pharisiens, c'était l'inverse. L'extérieur qui semblait super poli, super bien, il n'y avait rien qui dépassait. Ils avaient un intérieur tout moisi. Et Jésus le dénonçait. Jésus, en guérissant cet homme, il va permettre à ce que l'extérieur se colle avec ce qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il fait juste après ? Jésus ne lui demande pas de le suivre. Et pourtant, que fait cet homme ? De lui-même. Il va le suivre. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Et quel chemin ? Quel chemin ? Celui qui mène à Jérusalem. Celui où le Seigneur ne sera pas reconnu comme roi. Au contraire, il sera reconnu comme un malfaiteur. Il sera condamné comme un malfaiteur. Et il va se retrouver à trôner sur une croix, sur le mont Golgotha, entouré de deux brigands. Qu'est-ce que fait le Seigneur à ce moment-là ? Il est en train de souffrir. Il est en train de donner sa vie. Pour que, justement, la vie des hommes et des femmes puisse être réconciliée avec Dieu. L'homme, à l'image de ce qu'est Bartimée, l'homme est aveugle et il a besoin que le Seigneur vienne toucher ses yeux. Peut-être que à ceux qui entendent ce message, eh bien, vous ne saisissez pas ce qu'est Dieu pour vous. Vous ne saisissez pas peut-être ce que représente Jésus. Peut-être pour vous, ce sont des choses, c'est de la science-fiction. Laissez-moi vous dire que le Seigneur, il entend vos prières, parce qu'il est mort sur la croix, il a donné sa vie, mais il est ressuscité. Et la prière qui monte vers le Père, le Seigneur, il l'entend. Et il entend le malheureux qui crie à lui. Et celui qui demande à Dieu qu'il se révèle à son cœur, celui qui demande à Dieu à ce que ses yeux spirituels soient ouverts, à ce que ce voile peut-être qui demeure quand on lit la parole de Dieu soit ôté, eh bien, le Seigneur peut faire ce miracle aussi. Peut-être que quand tu lis la Bible, tu ne comprends rien à ce que tu lis. Comme cet homme éthiopien qui va humblement l'admettre et qui va dire « Mais comment comprendrais-je les textes si personne ne me guide ?» Et lui, qui est pourtant haut placé, ministre de Candace, les trésors de la reine, lui qui est intelligent, pour être au poste où il est intelligent. Et pourtant, il va reconnaître qu'il a besoin d'explications. Il a besoin que ses yeux soient ouverts. Et Bartimée, lui, il en avait bien conscience que ses yeux avaient besoin d'être ouverts. Mais d'un point de vue spirituel, il n'était pas aveugle du tout. Moi, cette histoire, elle m'émerveille parce qu'elle nous montre à quel point le Seigneur se met à notre portée. Cet homme, en plus, va montrer toute sa ténacité, toute sa persévérance. Alors qu'on le repousse, alors que la foule est comme une muraille devant lui, une muraille à Jéricho, le Seigneur va faire tomber la muraille de la foule. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir appeler cet homme. C'est ainsi que cet homme va pouvoir être touché de la grâce de Dieu. Peut-être que dans nos vies, il y a aussi des murailles qui nous empêchent d'accéder à Dieu. Il y a peut-être des principes, il y a peut-être des choses à l'intérieur de notre cœur qui nous empêchent de nous approcher vraiment de Dieu. Des choses qui nous empêchent de reconnaître vraiment Jésus pour qui il est. Peut-être qu'on a toujours entendu que Jésus était un bébé dans une crèche. Mais il n'est pas resté là. Comme je le disais tout à l'heure, il a grandi, il a fait tellement de miracles, et il est mort sur la croix. C'était Dieu incarné. Et c'était nécessaire. Parce que s'il n'est pas mort à la croix, je ne peux pas prêcher l'évangile là ce soir. C'est parce qu'il est mort, et c'est parce qu'il est ressuscité que nous sommes là. Parce qu'il est vivant, et il peut encore ouvrir les yeux de celui qui le demande. Il peut toucher celui qui en a besoin. On voit toute la compassion du Seigneur qui, lui, va s'arrêter pour celui qui est sur le côté, celui qui est assis au bord du chemin. Le Seigneur, le roi, il s'inquiète du petit. Il s'inquiète de celui qui est rejeté. Il n'a pas d'égard pour la foule, ou même de ses disciples, peut-être parmi la foule qui ont rejeté l'aveugle. On ne sait pas. Il va voir cet homme et son regard est attiré par cet homme. Et c'est ainsi qu'il s'arrête et qu'il prend pitié de cet homme. Cet homme, on pourrait le dire, qui avait peut-être une filiation, qui était fils d'un impur, va implorer, il va rencontrer le fils du bien-aimé. C'est ce que veut dire David. David, ça veut dire bien-aimé. Il va suivre Jésus. Il va se retrouver enfant de Dieu. Il va changer de nom. Il va changer de filiation. Alors qu'il était fils d'un impur, il va être aussi, lui, un bien-aimé de Dieu. Il va être aussi un David. Il va devenir quelqu'un que Dieu aime. Et Dieu l'aimait déjà. C'est ça qui est beau. C'est qu'alors qu'il était aveugle au bord du chemin, le Seigneur l'avait déjà dans sa tête. Et il savait que lui, il y voyait clair. Et il savait qu'il avait l'humilité aussi pour s'approcher de Dieu, qu'il saurait le reconnaître. Et à celui qui de tout son cœur cherche le Seigneur, à celui qui de tout son cœur persévère et dans son cœur appelle le Seigneur, le reconnaît pour qui il est, le Seigneur Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a donné sa vie et c'est celui qui règne dans le ciel. C'est celui pour qui, par lesquels toutes choses ont été créées. Et c'est lui qui est souverain. Et la manière dont il est venu la première fois, certes, n'a pas fait de bruit. Le roi a été annoncé à Jérusalem par un aveugle. Mais quand il va revenir, ça ne sera pas la même musique. Il sera annoncé comme il se doit. Et il revient sur son cheval blanc. Il revient pour vaincre. Il revient pour combattre. Il ne revient pas pour faire la mission qu'il est venu faire la première fois. Là, c'est tout autre chose. Il viendra mettre en place son royaume. Est-ce que, en ce qui me concerne, dans quel état de cœur je suis? Est-ce que je fais partie de ceux qui pensent connaître, qui pensent voir, qui pensent tout savoir, qui pensent comprendre la parole de Dieu, et qui pensent qu'avec telle ou telle manière de faire, eh bien, on va pouvoir s'en sortir. Ou est-ce que, dans notre cœur, il y a cette humble reconnaissance du fait que, sans une œuvre de Dieu, on ne peut pas accéder à lui. Si on peut se permettre de nous approcher, de s'approcher de Dieu, c'est parce que lui a tout fait. Alors que nous ne lui appartenions pas, il nous a tendu la main. Alors que nous étions des pécheurs, comme le dit la parole, Christ est mort pour nous, parce qu'il nous aimait comme pécheurs. Il nous a toujours aimés. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il nous a toujours aimés profondément. Combien plus forte raison que celui qui lui appartient, il l'aime. Mais dès le départ, il a aimé l'humanité. Le problème, c'est que l'homme a refusé Dieu. Ici, on a l'exemple de quelqu'un qui a tout mis, les chances de son côté, on va dire, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Il était sur le côté, il a questionné les gens, et tant pis s'il passait pour un fou, il a acclamé Jésus comme le roi. Personne ne devait le comprendre. Personne. Mais qu'est-ce qui lui prend de l'appeler comme ça? Qui l'a compris? Certains, oui, il y avait des débats. Certains se posaient la question, mais c'était pas tranché, loin de là. Et lui, il en avait fait son roi. Il en avait déjà fait son roi. Et celui qui a choisi dans son cœur de faire de Jésus son roi, et qui dans son cœur a cette prière, qui appelle à Dieu, même s'il ne comprend pas tout, et à la limite qu'il admette dans son cœur qu'il ne comprenne pas tout, eh bien cette prière qui monte vers Dieu, il l'entend. Et il est prêt à ouvrir les yeux de celui qui le demande, avec foi, sincérité. Le Seigneur ne demande qu'à ce que nous puissions voir. C'est ça l'évangile, c'est ce que nous avons lu dans Jean. Celui qui a cette humilité de cœur, cette sincérité de cœur, d'admettre s'être trompé, et même d'admettre encore, pouvoir encore se tromper, eh bien, le Seigneur est prêt à intervenir. Il est prêt à ouvrir les yeux. Il y a des fois, on part dans de faux raisonnements, et on s'aveugle nous-mêmes. Et le Seigneur, lui, il est prêt, si mon cœur est bien disposé, à ce que tout à nouveau je puisse voir. C'est ce que nous raconte cette histoire. Il a persévéré, il a appelé le Seigneur de tout son cœur, et le Seigneur est intervenu dans sa vie. Il a recouvré la vue. Gloire au Seigneur, c'est ce qu'il veut faire dans notre vie à tous. On prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons dire merci, Seigneur, parce que là où peut-être nous sommes aussi des fils du diable, parce que le péché est dans notre cœur, nous savons que parce que tu as fait pour nous sur la croix, parce que tu as donné ta vie, parce que tu t'es donné toi-même, que ton sang a coulé, nous pouvons nous approcher de toi. Nous pouvons nous approcher de Dieu parce que nous savons que tu es mort pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, pour cette assurance. Merci, Seigneur, parce que au jour où nous nous approchons de toi, au jour où nous nous repentons, nous devenons des enfants de Dieu. Oui, merci, Seigneur, parce que tu nous donnes un nouveau nom. Tu nous donnes un nouveau nom. Et alors que nous étions des fils du diable, nous devenons des fils de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais l'honneur de porter ton nom. Nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies à chacun. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que, oui, tu es grand, parce que tu te révèles aux petits. Et tu n'as jamais changé de ce point de vue. Merci, Seigneur, pour tes grâces, pour tes bienfaits. Gloire à ton nom. Amen.